On commence donc à présent avec la revue de presse. Bonjour Antoine Geoffin.
Bonjour Laetitia.
À la une ce matin, les vaccins contre la Covid qui arrivent donc en France.
Mais la Voix du Nord rappelle que le vaccin n'est pas une baguette magique et qu'il ne faut pas se relâcher. D'ailleurs, Olivier Véran dans le JDD reconnaît que oui, le virus circule encore trop. Quid d'un troisième confinement? Alors, le ministre de la Santé n'écarte pas l'hypothèse pour protéger la population. On observe heure par heure, dit-il. Pour vacciner, encore faut-il que l'on soit d'accord. Le consentement, c'est la base, rappelle le directeur d'un EHPAD de Wascal dans la Voix du Nord. Dans son reportage, le journal local prend la température des résidents concernés par la première vague de vaccination. Armand, 95 ans, sourd, écrit non en gros sur sa feuille quand son fils lui demande s'il veut une piqûre.
Et dans M, le magazine du Monde, portrait d'une moitié de président.
Alexis Kohler, 48 ans, secrétaire général de l'Élysée, personnage méconnu du grand public, maillon essentiel du pouvoir, technocrate méthodique et scrupuleux, écrit le magazine du Monde, bête de travail jusqu'à 2h du matin chaque jour, mais dit l'hebdo, rarement haut fonctionnaire aura concentré autant de pouvoir en restant si discret. Il faut lire alors ce que disent de lui des proches d'Emmanuel Macron. Sibeth Ndiaye, c'est l'une des seules personnes qui peut faire changer d'avis le président. Richard Ferrand, si le chef de l'État était un ordinateur, Alexis Kohler en serait le logiciel. Édouard Philippe vante lui sa loyauté totale à Emmanuel Macron. C'est simple, le président a deux repères, sa femme et Alexis, souffle un proche. Il me connaît parfaitement, reconnaît le chef de l'État. Alexis Kohler se définit comme une garde triage, griffonne des notes à longueur de journée, réserve ses avis à celui qu'il appelle le chef. D'ailleurs, on entend peu sa voix lors des réunions à l'Élysée. Taiseux, timide, rigoureux, ce père de famille consent à lâcher qu'il est un bon joueur de baby-foot, mais comme l'écrit M, même ses proches ne connaissent pas son écrivain ou son film préféré.
Et puis on souhaite un bon anniversaire à l'équipe MAG, 40 temps pour le petit frère de l'équipe.
Et on en prend plein les yeux avec une rétrospective de 40 ans de sport, les années 80, Prost, Luis Fernandez, Platini, de belles photos à chaque fois, une collector de l'icône Maradona au Lido après le jubilé de Platoche, c'était en 88. Les années 90 aussi, photos magnifiques encore une fois, la regrettée Florence Artaud, noir et blanc, cigarette à la main à l'arrivée de la route du Rhum, souvenir d'une navigatrice pionnière dans un sport où les hommes ne laissaient pas de place, une langue bien pendue aussi quand le journaliste du MAG en 89 lui pose des questions qu'on ne poserait pas à un homme. Exemple, vous avez une drôle de réputation. Sa réponse fuse à la troisième personne, pleine d'ironie. Si elle n'avait pas son cul, elle n'aurait pas son bateau. Salope. Question numéro 2 du journaliste. Alors, un homme dans chaque port? Un peu tendancieux. Tac au tac, oui, et rebelote en riant. Ben, faut bien, hein, faut bien. Bref, un super dossier avec aussi pas de jaloux du tennis, du judo, du rugby, du hand et de l'escrime.
Dans l'Obs, cette fois, les cavaliers de Harlem, l'histoire de 8 gamins d'Harlem qui sont devenus champions des États-Unis d'échecs.
Et comment imaginer que ces mômes issus du ghetto new-yorkais s'intéresseraient aux échecs? À l'époque, dans les collèges de la ville, il y a seulement 10% de joueurs noirs. C'était alors un jeu pratiqué exclusivement dans les écoles dont les frais de scolarité seuls dépassaient le salaire des parents de Harlem, écrit l'Obs. Le futur capitaine de l'équipe championne raconte comment les échecs lui sont tombés dessus. Un prof à l'école où je venais de débarquer nous avait laissé du temps libre en classe à la fin de l'année, mais il n'autorisait que les échecs. J'ai regardé les pièces et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc d'intello de crâne d'œuf? Je n'étais absolument pas intéressé jusqu'à ce qu'un copain de classe me lance, dégage, tu sais pas jouer. Le fait que l'on puisse crâner avec ce jeu m'a intrigué et je me suis dit qu'il pourrait m'aider à m'intégrer. Ces 8 copains, 6 noirs, un hispanique, un asiatique se prennent au jeu, le prof de science les encourage, les emmène le week-end à Manhattan pour jouer des tournois, ils finissent par devenir champions du pays. En avril 91, ils ont fait d'un jeu élitiste le jeu de tous, constate le responsable de l'enseignement des échecs dans un groupe d'écoles de New York. C'est simple, aujourd'hui 10% des joueurs d'échecs noirs il y a 29 ans, aujourd'hui c'est 40%.
Et on termine Antoine avec une première en France.
Vous connaissiez les drive-in, un peu passé de mode aujourd'hui, les drives pour récupérer ses courses, chercher un burger ou fast-food, mais vous n'aviez pas encore vu les drives casino 2020 et son lot d'inventions à lire et à voir dans Midi Libre. À partir de samedi prochain au casino de la Grande Motte, vous pourrez aller jouer aux machines à sous, à la roulette, blackjack et poker sur écran. Depuis le parking, l'établissement a mis en place des emplacements individuels. On gare sa voiture sur l'espace dédié et hop, on essaye de décrocher le jackpot. Dans ces box d'une dizaine de mètres carrés chacun, une banquette, une table basse, un mini-bar et bien sûr le tapis rouge. Pas de contact avec le personnel et les autres clients. Attention au Covid. Masque obligatoire, mais vous aurez quand même le droit de crier si jamais mais vous décrochez le gros lot, pourquoi pas?
Bah oui, on peut toujours rêver. J'ai un truc, ça marche. Non, bah ça marche pas. Merci beaucoup Antoine Geoffin.